Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bande dessinée.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. C'est la bulle d'histoire traditionnelle de Noël. L'an dernier, on avait reçu Jérôme Briot, qui est libraire à Paris, à la Planète Dessin. Cette année, on change carrément. On est avec Christophe Villain, qui est historien de la bande dessinée, journaliste, commissaire d'exposition, animateur d'émissions sur la bande dessinée. Tu as fait une série d'interviews absolument géniales.
Salut Stéphane.
De libraire confiné. Salut Christophe. Ben, je suis ravi de t'avoir et ravi que tu aies enfilé le costume du Père Noël pour nous.
Ben, comment vas-tu? Ça va bien, voilà. Non, ouais, c'était assez sympa d'aller se promener dans les librairies, même si on pouvait pas bouger, et puis de faire découvrir aux spectateurs à la fois les librairies françaises de bande dessinée, et puis d'avoir les conseils des libraires. Ça, c'est toujours important, et c'est vrai que là, c'était terrible, malheureusement, de ne plus pouvoir les voir. Donc voilà, ça tombait bien, ça m'a permis de rencontrer plein de libraires sympas que je ne connaissais pas en plus.
Ouais, puis ils ont apprécié qu'on s'intéresse à eux de cette façon-là. En tout cas, j'ai eu l'impression, quoi. C'était pas doloriste et c'était pas de la plainte, c'était vraiment de l'énergie et de la bonne humeur.
Non, c'est pour ça, c'était vraiment bien. Et en fait, j'ai démarré ça au tout début du confinement. Et l'idée, c'est de poursuivre. Donc l'émission passait, ça s'appelle 1-2-3 BD chez les libraires. L'émission passait tous les soirs à 18h30. Et là, je vais continuer, puisque certes, les librairies sont rouvertes, mais je vais le faire deux fois par semaine. Donc j'ai commencé justement avec Jérôme, cette quatrième semaine. L'émission est passée hier. Et voilà, j'ai pu avoir les petits conseils de Jérôme Briot que tu avais reçus l'an dernier.
Où est-ce qu'on peut voir toutes ces émissions? Parce que comme tu te balades un peu partout, les auditeurs d'un peu partout peuvent trouver le bon libraire BD près de chez eux. Où est-ce qu'on peut voir tes émissions?
Alors, elles sont toutes disponibles sur la chaîne YouTube Très pour Très BD. Et puis, c'est relayé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, beaucoup, sur ma page perso ou la page de Très pour Très.
Bon, on mettra tout ça sur le site de la radio. Alors, Noël approche, normalement, enfin, ça a l'air bien parti quand même. Noël en décembre, c'est toujours d'actualité. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller en lecture, en achat de Noël, en cadeau perso? Par quoi tu peux commencer?
Alors, il y a eu plein de belles choses qui sont sorties. Hein. J'ai fait une petite sélection, donc on va pouvoir en discuter. Mais le premier, puisque là, c'est vraiment d'actualité, il vient d'être primé à la fois prix RTL, prix Landerneau, le prix de la CBD, c'est le magnifique album Podum, sorti chez Glénat. Alors, c'est vrai qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé ces derniers temps, hein, d'abord parce que malheureusement, le scénariste Hubert est mort cet été, et l'histoire est absolument magique, c'est sous la forme d'un conte, hein. Tu l'as lu, je suppose?
Oui.
Et c'est vrai qu'à la fois le côté conte qui est vraiment très très chouette, et puis ça permet d'aborder des tas de sujets d'actualité, puisque l'histoire démarre comme ça, hein, c'est une princesse là qui doit se marier, et sa tante, sa marraine va lui proposer un petit truc tout à fait étonnant. Il y a un secret dans la famille, ils ont de côté une peau d'homme, et ça va lui permettre d'enfiler cette peau d'homme pour aller voir un petit peu qui est ce futur prétendant. Donc elle se retrouve dans un corps d'homme. Donc il va y avoir tout un discours qui va se développer justement autour de la notion de genre, et ça c'est très très bien fait, très très bien ficelé, et puis c'est plein d'humour, c'est très marrant, puisque ce prétendant, sans raconter toute l'histoire, mais va drôlement sympathiser avec ce personnage dans sa peau d'homme. Non, j'ai trouvé que c'était magique, ça.
Je l'ai lu, et surtout ma fille qui a 12 ans l'a lu aussi.
Ah oui.
C'est un album qui est assez épais, qui a l'air peut-être difficile d'abord, mais les jeunes adolescents, à partir de 12 ans, peuvent le lire sans aucun. Y a pas du, c'est pas du tout graveleux, c'est toujours intelligent, c'est toujours poétique.
Voilà. Alors, c'est traité avec beaucoup d'humour et d'intelligence, effectivement, et puis le dessin est somptueux. Le dessin de Zanzim est vraiment parfait, donc vraiment un album à ne pas rater, qu'on peut mettre sous le sapin, qu'on peut offrir, et puis avoir dans sa bibliothèque, ça c'est indispensable. Donc ça c'est le premier dont je pouvais conseiller l'achat.
Ouais, ouais, tout à fait.
Alors après est sorti un autre monstre là, il y a quelques jours ou semaines, je ne sais plus d'ailleurs, c'est le Vernon Subutex de Luz et de Despentes.
Alors, pas lu ça.
Graphiquement, c'est une claque et c'est vrai que moi j'adorais Luz en caricaturiste quand il avait toute sa période à Charlie Hebdo sur du dessin de presse. Et c'est vrai que depuis qu'il fait de la BD, il m'étonne à chaque fois et là on a encore franchi un autre niveau. Donc un dessin très déjanté, mais au même titre que l'album, hein, puisque, allez, on va pas rentrer dans les détails. Mais le traitement graphique est vraiment surprenant. Et puis, Despentes avait sorti ses romans il y a déjà plusieurs années, et elle a réécrit justement l'histoire de manière à l'adapter à la bande dessinée. Donc, c'est vraiment un travail à quatre mains, là, et avec une nouvelle écriture. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Alors, Vernon Subutex, est un disquaire qui malheureusement va être obligé de fermer sa boutique et puis qui va sombrer progressivement. Alors il se trouve qu'il a un super copain musicien, enfin chanteur à succès d'ailleurs, qui va l'aider et ce personnage va mourir, mais avant de mourir il va lui confier trois cassettes enregistrées, trois cassettes audio où il raconte sa vie. Et tout le monde va courir après ces trois cassettes et le Subutex... puisqu'il a plus de domicile, il perd tout, il va squatter à droite et à gauche, et donc on est dans cette recherche des trois cassettes pour pouvoir les présenter. Vraiment, c'est très très bien foutu, c'est sorti chez Albin Michel, qui fait un grand retour dans la bande dessinée, hein. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus sorti d'album de BD, pourtant il y a eu la grande époque avec les Rezer et compagnie, et voilà, là de... bon retour quand même dans le monde de l'édition et avec un gros pavé. Donc c'est le premier tome et voilà, ça c'est un incontournable aussi, le Vernon Subutex, magnifique.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi vraiment de la belle littérature contemporaine qui rentre dans la bande dessinée. On n'est pas dans l'adaptation de classique
tout
de
à
la
fait.
Littérature. On est dans vraiment de la littérature d'aujourd'hui, quoi.
Non, puis on ressent le fait qu'ils ont dû bien s'amuser à travailler ensemble. Hein. Il y a une complicité qui émerge du bouquin. Et vraiment, ouais, ça fout une bonne claque quand même. Hein.
J'ai entendu dire que la BD était beaucoup, beaucoup mieux que la série d'adaptation du roman.
Alors moi, j'avais lu les romans, donc là, on retrouve bien sûr cette ambiance, mais je n'ai pas vu la série, donc je ne peux pas comparer.
Ouais. Moi, j'ai vu la série, je n'ai pas vu la BD, donc je ne peux pas comparer non plus.
Eh bien, écoute, si tu veux un cadeau à Noël, fais-toi offrir le Vernon Subutex.
Ouais, je vais me le faire, le cadeau, en fait.
Alors après, dans les choses sympas qui sont sorties aussi, et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, c'est Le Cocteau. L'enfant terrible de Laureline Mathiussi et François Rivière. Donc François Rivière, journaliste, éditeur, etc. Et Laureline Mathiussi, qui est vraiment... oh mince, je suis désolé, ça sonne. Qui a vraiment un graphisme étonnant. Alors ce qui est sympa, c'est le parti pris. Cocteau se retrouve devant un tribunal fictif. Alors c'est vrai que c'est un personnage qui est quand même délirant, ce Jean Cocteau, qui était pluridisciplinaire, touche à tout. De génie, parce que graphiquement c'est quand même très fort, quand il passe à la réalisation de films, que ce soit La Belle et la Bête, Les Enfants Terribles, etc., il est étonnant. Donc il y a à la fois ce côté touche à tout, avec un dessin somptueux de Laureline Mathiussi, c'est vraiment très onirique, très très beau. Elle cherche un petit peu à retrouver cet univers poétique de Cocteau. Et on a vraiment un superbe album. Donc ça, c'est sorti chez Casterman. Pour les amateurs de Cocteau, c'est pareil, c'est à mettre sous le sapin.
Ok, je note.
Ça, t'as pas lu ça non plus ?
Non, mais en plus, Cocteau, ça m'a jamais touché, en fait. C'est un peu mon problème. J'ai un mauvais a priori avec Cocteau, quoi. Je trouve ça très, très apprêté, très artificiel. Donc, c'est probablement un mauvais souvenir de ma prof de français de première.
Et justement, là, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a, bien sûr, ce dandy mondain qui est Cocteau, qui n'est pas le côté le plus intéressant du personnage, mais on a aussi ce génie pluridisciplinaire là, qui vraiment est bien exposé dans le livre, et justement cette dualité est assez intéressante et permet de découvrir Cocteau d'une autre manière, tu vois. Il y a aussi, parce que c'est vrai que c'était pas quelqu'un qui a quand même traversé le 20e là en laissant sa patte un peu partout, et qui n'était pas particulièrement engagé. Et on le voit se positionner quand c'est Mac Jacob, je crois, qui est déporté à Drancy, et il va essayer de fédérer un petit peu tous les artistes pour le libérer. Et malheureusement, il y arrive, il finit par avoir la possibilité de faire libérer Jacob, et malheureusement, il est mort. Il meurt à Drancy. Donc voilà, il y a cette part aussi d'engagement, et puis bon, ses rapports avec ses amants aussi, qui sont quand même assez surprenants. Donc vraiment intéressant.
Ok.
Intéressant. Alors chez Casterman, il y a eu aussi, j'en profite hein, pour continuer dans cette maison d'édition, ils ont ressorti Tout commerce,
ouais, ça, c'est
en noir et blanc. Alors ça, en deux volumes. Les romans en noir et blanc de 76 à 84, et puis après la suite. Donc voilà, on ne présente plus comme ça, L'Arbre-Cœur, Eva et compagnie. Là, ça permet de les relire et puis de les avoir rassemblés sur des intégrales comme ça, sur un beau format d'ailleurs. Et je trouve que voilà, ça peut se. Pour les amateurs du noir et blanc. Se mettre ça sous le sapin, c'est pas mal.
Ouais, puis pareil, Comès, c'est toujours intelligent. C'est chaque fois que je relis du Comès, je suis toujours étonné par l'intelligence, la finesse du propos, la finesse de l'histoire.
Mmh. Avec un trait magnifique.
Ouais, le dessin, c'est une bonne idée d'avoir fait cette intégrale, parce que c'est que des chefs-d'œuvre, en fait.
Oui. On peut les relire avec... voilà, moi, je les ai lus il y a longtemps, hein, mais de s'y replonger, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, ça c'est à mettre sous le sapin aussi. Alors, si on continue, t'en veux encore d'autres ?
Ouais, encore 3 ou 4, quoi.
Écoute, il y a le... Ah si, tiens, ça c'est sympa, puisque ça peut être mis plutôt pour le 31 décembre. Allez, on va pousser un peu plus loin. C'est les plus belles filles de la BD érotique, qui est paru chez Dynamite. Alors, on peut quand même, hein, le soir.
Évidemment qu'on peut.
Et c'est pas mal, c'est une belle intégrale qui reprend bien sûr les grands maîtres de la bande dessinée érotique, avec à chaque fois un petit commentaire sur l'album mythique, hein, donc on va pas revenir sur Manaral, Déclic, Les Serpieries et compagnie, et puis d'autres auteurs. C'est une belle intégrale, ça. Je sais pas si tu l'as vu passer.
Ouais, je l'ai vu, je l'ai reçu aussi.
Et bien, hein.
Bah, non, c'est toujours un plaisir. D'abord, c'est un plaisir de garçon, premièrement. Et puis voilà, on est toujours étonné de la diversité et de la richesse de tous ces dessinateurs. Mmh. Et là aussi, toujours de jamais tomber dans le graveleux, dans le vulgaire. Le choix, je trouve, est vraiment très très fin, quoi.
Très très fin, ouais. Non, c'est voilà, ça c'est chez Dynamite, et les plus belles filles de la BD érotique, c'est quand même très très bon.
Plus l'éditeur Dynamite, on n'en parle pas souvent.
Non, c'est vrai, et très belle chose. Il y a eu tout un renouvellement, justement, dans la bande dessinée érotique. Je ne sais plus quel est ce dessinateur hyper réaliste, là. Je ne sais plus son nom, ça va me revenir. C'est des séries qui sont, justement, qui ne s'adressent plus exclusivement... Mmh. Il y a un public masculin.
Ouais, ouais.
Il y a une ouverture un petit peu vers un public plus féminin qui d'ailleurs achète aussi, alors pas forcément dans les mêmes proportions que les hommes, mais commence à s'intéresser au genre. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors après, On a, tiens, allez, on va rester dans le même, un peu dans le même domaine, parce que j'avais trouvé que le premier était super. Et ça, c'est aux Arènes BD que c'est sorti. C'est la suite de l'incroyable Histoire du sexe, hein, avec Philippe Breno, donc, qui est un sociologue, et Laetitia Corinne au dessin. Et ça, c'est, le 1 était très, très drôle, avec des tas de petites anecdotes. Et on continue à découvrir dans ce livre 2, l'histoire de la sexualité de l'Afrique à l'Asie. Donc avec plein, pareil, de petites anecdotes historiques, des explications très poussées sur le Kama Sutra, sur tout ça. Donc voilà, ça c'est à mettre en plus des plus belles filles de la bande dessinée érotique. Et ça c'est aux Arènes BD.
C'est hyper drôle et c'est hyper sérieux en même temps.
Ah non, mais ça plaisante pas en termes d'information. C'est-à-dire que voilà, Philippe Breno est quelqu'un de... compétent, très compétent sur le domaine, et puis avec le dessin de Laetitia qui est très drôle, qui est toujours très léger, ça fait un petit bouquin vraiment, vraiment chouette, ça, vraiment sympa. Donc voilà, les deux à mettre. Alors il y a chez Delcourt quand même qui est sorti Castelmore, ça c'est pareil, une petite merveille de Lewis Trondheim et Alfred, on les présente plus, c'est de là. Et là, il y a un petit album sous la forme de conte qui est assez marrant, puisque une malédiction, un roi, enfin tout un royaume va souffrir d'une malédiction où les enfants vont naître comment on pourrait dire, avec des malformations, etc. Et c'est très très bien foutu, ça.
Ouais, ça aussi ça peut être lu par des plus jeunes, parce que c'est une belle histoire sur la différence.
Tout à fait. Et c'est vrai que c'est aussi bien effectivement pour des jeunes, parce que c'est d'une fluidité dans le récit et dans la conception de l'histoire, que par des adultes. Ouais. Et vraiment, ils ont sorti un sacré truc là.
Ouais, et puis c'est comme tu dis, en plus le dessin est très beau, il y a un petit côté nostalgique. Enfin, moi aussi, j'ai beaucoup aimé cet album.
Ouais, ça fait partie des sorties là, récentes qui. Ah, te font du bien quand tu lis. On a besoin en ce moment de lire des choses sympas comme ça.
Ouais, tout à fait.
Et puis, je peux quand même parler de ça parce que c'est la période des cadeaux et pour les amateurs de bande dessinée, la Bible et la référence, c'est quand même le BDM. Et le nouveau BDM vient de sortir.
Donc, dis-nous un peu ce qu'est le BDM.
Alors, le BDM, c'est la Bible des collectionneurs, puisque ça rassemble tout ce qui est sorti en matière de bande dessinée, avec les codes des albums, puisqu'il y a tout un marché au niveau de la bande dessinée aussi, dont on parle des fois, puis quand on voit les ventes de planches, etc. Et là, ça concerne les albums BD. Donc, ça faisait un petit moment qu'on attendait la nouvelle parution, et puis voilà, ça y est, il est sorti, donc on peut se plonger dans ce catalogue encyclopédique, et c'est en même temps un Argus. Donc, beau petit cadeau pour les collectionneurs, ça.
Ouais, et puis pour les amateurs, pour découvrir plein de séries qu'on connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler. Moi, c'est un peu comme ça que je l'utilise, j'en ai un plus ancien, j'ai pas le nouveau. Mais voilà, des fois, je me plonge dans les pages et je découvre des séries dont je n'ai jamais entendu parler, que je n'ai jamais vues, et ça m'ouvre des perspectives, comme ça je deviens curieux. C'est effectivement un outil très sympa, et puis ceux qui ont beaucoup d'albums, qui ont envie de les vendre, peuvent savoir combien ils peuvent gagner.
Voilà, tout à fait. Et puis ça permet de découvrir aussi, moi j'adore sur tous les Tintins où les collections sont multiples pour se retrouver par rapport aux années, aux parutions. Et ça, c'est vraiment chouette de retourner à un vieil album de Tintin et de se dire « Ah bah oui, celui-là, alors il est de 52, il est de 53, il est de 65. » C'est top. Moi, je m'amuse beaucoup avec le BDM. Donc, c'est édité chez les Arènes BD aussi. Et c'est quand même la 22e édition. Et ouais, ça fait un sacré moment.
C'est un gros bouquin, ça.
Ouais, c'est un gros bouquin, mais ça peut être un peu de cadeau pour des gens qui sont vraiment des collectionneurs de bande dessinée, bien sûr. Donc voilà, un petit peu...
Allez, encore un, parce que j'en vois un très beau sur le côté, là.
Ah ben, il y en a deux qui sont chouettes. Il y a bien sûr Marc-Antoine Mathieu qui vient de sortir. Ça, c'est chez Delcourt, la suite. Hein. Alors, Julius Corentin à Kefax, c'est quand même tout un personnage, complètement déjanté. Et puis, le travail graphique de Marc-Antoine est toujours renversant. Donc, les gens qui connaissent pas Marc-Antoine Mathieu peuvent le découvrir à travers sa série Julius Corentin, mais aussi avec Les Sous-sols du Révolu, qui était sorti il y a plusieurs années en collaboration avec le Louvre, qui était remarquable, qui permettait de voir l'envers, finalement, des collections du Louvre. Et là, voilà, le nouveau, l'Hyper Rêve. Toujours dans le même principe, hein, on déconstruit un petit peu la façon de travailler et on retrouve ce Julius dans des conditions toujours hallucinantes. Toujours hallucinantes. Ça, c'est chez Delcourt. On aurait pu parler du New York Cannibal aussi de Book et Charine. Je ne sais pas si tu l'as lu, le dernier. Si, si.
Ça, bah, ça moi, va. J'aime beaucoup Book et beaucoup Charine. Là, c'est des auteurs que je suis depuis très 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 longtemps et même quand ils font des choses moins bonnes, je suis toujours aussi fan, quoi.
Ouais. Voilà, il est très bon, le New York Cannibal. C'est très bon, ouais. On est dans la suite, hein, de... Voilà, donc Little Tulip avec sa couverture magnifique, ce tatoueur, hein, au goulag, dont on suivait les pérégrinations dans la première BD. Ben là, on le retrouve à New York. Il a une petite protégée qui est quand même assez bien taillée, hein. Putain, le fait du bodybuilding, là, ça ne plaisante pas. Elle est policière et elle va se retrouver au cœur d'un trafic de bébés qui est assez monstrueux. Il y a justement des retours avec les fantômes du goulag qui réapparaissent dans la vie de Pavel. Vraiment, c'est un superbe album, ça. Ça fout aussi une bonne claque.
Ouais, et puis Jérôme Charine, c'est pareil, c'est comme Virginie Despentes, c'est un immense écrivain, bon, surtout écrivain de polar, mais immense écrivain américain qui écrit beaucoup en français et grand scénariste, quoi. Il faut suivre cet homme.
Ah, c'est une très très belle collaboration, je trouve. Hein. Très très belle collaboration. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'albums, là.
Bah ouais. Et puis un choix exigeant et avec vraiment des belles choses, des choses que je connaissais pas en plus. Donc moi, ça me fait aussi des cadeaux potentiels. Et Christophe, je te remercie pour ces moments passés avec moi, ces conseils donnés aux auditeurs. Et bah, je te souhaite un joyeux Noël.
Et bien écoute Stéphane, merci de m'avoir invité à parler bande dessinée. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et puis bah pareil, passe un bon Noël. Fais attention parce qu'en ce moment, il faut continuer quand même à faire attention.
Ouais, absolument.
Mais bon, ça devrait bien se passer.
Mais on refera une émission au début de l'année sur qu'est-ce qu'un critique de bande dessinée, je pense.
Ah bah écoute, avec plaisir.
Je pense que ça peut intéresser les auditeurs de savoir quel est de connaître un peu mieux quel est ce métier étrange où on est plus ou moins payé pour lire des bandes dessinées, ce qui est quand même pas mal.
Ce qui est quand même plutôt sympathique. Ah hein,
ouais. Je répète, plus ou moins payé.
Oui, après ça c'est autre chose.
Bon, je te remercie et à bientôt.
À bientôt Stéphane, merci à toi.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.